En tant que centre de ressources de la politique de la ville, la porte d'entrée, si vous voulez, du CRDSU, c'est la connaissance au niveau de la région Rhône-Alpes, de la cinquantaine de programmes de réussite éducative, des professionnels des collectivités locales qui sont attachés à ces missions, ainsi que des agents de l'État, en particulier les délégués du préfet et ceux qui travaillent dans les DDCS et directions départementales cohésion sociale. Voilà, ça, c'est ma porte d'entrée. Et l'intérêt pour le CRDSU de participer à ces séminaires, c'est de pouvoir rencontrer d'autres acteurs que nous côtoyons peu, et en particulier les professionnels de l'éducation nationale. Donc ce n'est pas la première fois en fait que l'on me demande de présenter l'histoire du séminaire, car en fait il s'avère que je suis la seule qui l'ait suivi donc, depuis son origine. Et comme on peut trouver une trace écrite de ma précédente intervention dans le rapport de 2012-2013, je ne vais pas me répéter, puis du coup j'ai choisi un autre angle d'approche, tout en essayant évidemment de répondre à la commande. Donc il s'agit d'un séminaire qui a une histoire un petit peu longue, hein, puisqu'il a démarré en 2007, qu'il se poursuit en 2015. Donc je vais m'attacher à en rappeler la philosophie générale et les évolutions au regard des partenaires, des participants, des thèmes et des méthodes. Et puis je terminerai par un petit rapport d'étonnement qui m'est tout à fait personnel. L'objectif principal du séminaire, c'est d'offrir un espace pour partager la réflexion, les connaissances et les pratiques professionnelles sur le partenariat autour de la réussite éducative. Depuis 2009, l'intitulé général du séminaire est resté le même, « Questions vives du partenariat et réussite éducative ». Ce qui témoigne d'une certaine constance, même si les sous-titres et donc les thématiques de travail changent, eux, chaque année, et ça, j'y reviendrai. La spécificité ou l'intérêt de ce séminaire sur le partenariat, donc, est qu'il soit basé sur une dynamique partenariale. Donc, les premiers partenaires de l'IFE, qui s'appelait alors l'INRP, étaient les centres ressources enfance, famille, école, Rhône et Isère, la Caisse d'allocation familiale du Rhône, le Collège coopératif Rhône-Alpes, l'École des parents de l'Isère et le CRDSU. Puis le CREF 1 Rhône et l'École des parents ont quitté le comité de suivi, alors que l'inspection académique de l'Isère et le centre académique Michel Delay ont fait leur entrée. Il faut également noter le soutien financier de la DRJSCS, la Direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale, depuis plusieurs années, et sa participation aussi au comité de suivi. Et la diversité des structures, le fait que l'on puisse y entrer, y sortir, sont à mon avis l'une des clés de réussite de cette dynamique partenariale qui vit, qui n'est pas figée. S'agissant des participants, qui sont à peu près une vingtaine chaque année, j'insisterai sur leur diversité et leur évolution au cours des années. Je me souviens, la première année, il y avait essentiellement des coordonnateurs des programmes de réussite éducative, des représentants du milieu associatif, et il y avait un représentant de la direction jeunesse-sport de l'Ardèche. Mais il n'y avait pas de représentant de l'éducation nationale dans les participants. Un peu étonnant. Aujourd'hui, les participants sont plus diversifiés. On a des représentants des collectivités locales, que ce soit au niveau de la commune, de l'agglomération. On a eu des représentants du conseil régional qui sont venus également. Des représentants d'éducation nationale et du secteur associatif. Il y a un point commun, par contre, entre les participants de 2007 et ceux des années suivantes, c'est leur fidélité à ces rencontres. Comme s'ils se retrouvaient ici, dans l'enceinte de l'IFE, apportaient une bouffée d'air dans un quotidien qui n'est pas toujours facile, et ce, quelle que soit l'origine professionnelle qu'on travaille dans un collège ou dans une collectivité locale. Les thèmes abordés au cours des différentes séquences du séminaire sont eux aussi assez diversifiés. Donc moi, je ne vais pas m'intéresser aux apports du séminaire en termes de contenu, car je pense que Stéphane et Jean-Marc y reviendront. Puis en plus, il y a des traces écrites, il y a des vidéos, etc. Mais je vais rappeler quelques-unes des thématiques que l'on a travaillées, un peu comme un catalogue à la Prévert. Il y a eu la parentalité, la différence, les liens entre réussite éducative et réussite scolaire, les notions de diversité et d'ethnicité dans les pratiques professionnelles, la violence à l'école, l'accompagnement des jeunes en grande difficulté scolaire, les pratiques langagières des jeunes, la prévention des discriminations dans le champ éducatif, les relations école-famille, le rapport au savoir et à l'apprentissage, les métiers de la coordination ou encore l'évaluation. Comme vous pouvez le constater, le champ est large, voire inépuisable. Et ce que je retiendrai, moi, de ces différentes séances de travail, c'est l'opportunité qui a été donnée de pouvoir échanger en toute liberté, sans contrainte, pour parvenir à élaborer collectivement un point de vue ou une expertise partagée des problématiques et des difficultés auxquelles chacun est confronté dans son quotidien. Ce que le séminaire a permis, c'est de se poser pour prendre du recul, réfléchir sur ce qui fait sens dans les pratiques professionnelles de chacun. Quant aux manières d'aborder le sujet, là encore, nous avons expérimenté diverses formules. Le séminaire sur plusieurs séances espacées durant l'année, entre 3 et 6 séances, les journées d'études comme celle d'aujourd'hui. Nous avons eu recours à des interventions plutôt théoriques par des experts. Nous avons bénéficié de retours d'expériences d'acteurs de terrain, de témoignages d'institutionnels. Nous avons été parfois en plénière, parfois en petits groupes. Nous avons travaillé avec des groupes de participants à géométrie variable, des groupes constitués majoritairement de professionnels de terrain. D'autres années, des groupes constitués de personnel en responsabilité. Et il y a 2 ans, nous avons innové en prenant les inscriptions, non pas à titre individuel, mais par territoire. Et 12 territoires de Rhône-Alpes ont participé à ce séminaire. Et il y avait une règle, un principe. Il fallait qu'il y ait à minima un représentant de la collectivité locale et un représentant de l'éducation nationale. Et ça nous a permis de réfléchir collectivement aux difficultés rencontrées sur un territoire, aux pistes de solutions à imaginer ensemble. Et pour résumer, c'était une manière de faire vivre et aussi d'éprouver le partenariat pour de vrai, je dirais. Donc, je vais enfin évoquer quelques moments marquants de ce séminaire, en tout cas des moments qui m'ont laissé une trace à moi. La première année, nous avons réellement vécu les difficultés du partenariat, car l'une des premières séances, le secret au sein du collectif n'a pas été respecté. Et comme souvent dans ces cas-là, la confiance s'est effritée et les échanges s'en sont ressentis. Du coup, fort de cette première année un peu difficile, les années d'après, je pense que les règles ont bien été fixées et il n'y a plus eu de diffusion du secret, ce qu'on appelle le secret partagé au sein d'une instance de travail. Je me rappelle également du témoignage musclé d'une mère de famille, membre d'une association, qui avait expliqué avec force conviction pourquoi les parents des familles populaires n'étaient pas des missionnaires vis-à-vis de l'école, bien au contraire. Et son témoignage avait laissé les gens de l'assistance, enfin nous, les participants, un peu scotchés. Et du coup, on avait eu beaucoup de mal à réagir après parce que ça renvoyait plein de choses à chacun d'entre nous. Il me revient également la présentation de sa fiche de poste par une coordinatrice de réussite éducative qui a entraîné des discussions passionnées, et voire sans fin, sur la complexité des missions de coordination qui s'apparentent à des missions impossibles. Et j'ai aussi en mémoire l'intervention d'un principal de collège sur le sujet sensible des discriminations au sein de l'école, de sa prise de conscience que lui-même avait pu être dans des positions discriminatoires. Et je me suis dit qu'il fallait une sacrée dose de courage pour s'exposer ainsi. Et je terminerai par une interpellation qui concerne toute dynamique partenariale, quelle qu'elle soit, et pas seulement celle du séminaire en particulier. Comment se renouveler? Comment pérenniser sans lasser les partenaires? Car c'est, à mon avis, l'un des enjeux du partenariat. Voilà. Merci de votre attention.
Parler de ce séminaire en quelques mots, parce que pour moi, il a une importance particulière. D'abord au sens où j'y ai participé tout d'abord en tant que coordonnateur d'éducation prioritaire et que ça a vraiment été pour moi d'abord un lieu de ressourcement et de compréhension de ce qui se jouait effectivement avec nos enfants des quartiers dans leur relation avec l'école. Je voudrais juste dire 2 mots sur, pour moi, cette question essentielle du partenariat et du diagnostic qu'on essaye de faire dans les quartiers, alors si possible, partagé. La question qui se pose pour moi, c'est pour faire un diagnostic de quels indicateurs on a besoin quand on parle d'accompagnement à la scolarité. La première chose, c'est effectivement, on peut faire un constat sur, moi c'est ça qui, sur la commune où je travaillais, qui était, m'a semblé le plus important dans le diagnostic CUCS à l'époque, c'est le constat du niveau de qualification des adultes sur ces quartiers. Ça, effectivement, voilà, quand on s'aperçoit que sur l'ensemble d'une commune, il y a 70% de personnes qui ont au maximum un niveau BEP, CAP, là, du coup, on pose le doigt sur le nœud du problème dans la relation avec l'école et la scolarité. La deuxième chose, c'est, pour poser un diagnostic, il faut arriver à une compréhension des problèmes réels et non pas d'échanger sur des projections qu'on peut faire sur les publics et sur les familles. Et ça, c'est difficile à déconstruire. Et il me semble qu'un des outils pour ça, et c'est ce que j'étais venu chercher dans ce séminaire, c'est un certain nombre de travaux de recherche que tout au long des années de séminaire, à chaque fois, on a essayé de présenter et de s'appuyer sur ces travaux de recherche. Parce que peut-être qu'une des choses que permet la recherche, c'est de voir ce que, en tant que professionnel, on ne peut pas voir. Quand Séverine Kakpo va enquêter pendant plusieurs mois sur ce qui se passe réellement dans les familles populaires autour des devoirs à la maison, elle nous donne à voir quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et du coup, ben, quand elle présente son travail, elle déconstruit un certain nombre de préjugés. Les travaux de recherche, ils nous permettent aussi de comprendre que ce qui se joue dans la relation entre les familles, les enfants avec l'école, c'est bien une relation entre deux milieux différents. Et qu'il y a des choses qui se jouent sur la question éducative. Je vous renvoie, que vous trouverez dans un des comptes rendus du séminaire de 2012-2013, à la présentation du travail de Sylvie Seb, qui parle d'un certain nombre de recherches sur les styles éducatifs. Ce qui coince dans la relation souvent entre l'enfant, la famille et l'école, c'est qu'on projette sur les familles le fait qu'elles éduqueraient mal leurs enfants ou qu'elles ne seraient pas assez fermes avec eux. C'est souvent ça qui se joue dans les discours que les professionnels peuvent tenir avec les familles. Alors que ce que nous renvoie Sylvie Seb, c'est que toutes les recherches montrent que, au contraire, le style éducatif, là c'est une généralité, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui se passe dans toutes les familles, il y a beaucoup de variabilité entre les familles, mais le style éducatif qui est plutôt celui qui est majoritaire dans les familles populaires, c'est plutôt un style éducatif qu'elle appelle rigide. C'est-à-dire que les règles sont très strictes. Mais par contre, on n'imagine pas qu'on puisse contrôler l'enfant à distance, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sous notre regard pour qu'on puisse le contrôler. Et ça va se mettre en relation avec des enseignants qui sont plutôt de milieu de classe moyenne, et qui ont plutôt un style éducatif qu'elle appelle souple. C'est-à-dire que les règles peuvent être négociées, on va discuter, on va construire des choses. Et que c'est cette tension-là entre deux styles éducatifs qui fait que parfois les enfants des familles populaires ne s'y retrouvent pas à l'école. Et donc c'est bien des choses à expliciter, à verbaliser, à travailler. Justement en sortant des projections qu'on peut faire sur la défaillance des parents. Deuxième chose que nous renvoient aussi les travaux de recherche, c'est dans la question qu'on a un petit peu abordée hier déjà avec Julien, du rapport au savoir, et qui est lié à des principes aussi de domination sociale, parce que les parents ont eux-mêmes vécu une scolarité qui est douloureuse, pour une raison très simple, c'est que pour beaucoup de familles populaires, travailler à l'école, c'est comme travailler à l'usine ou comme travailler... Il faut faire montre de travail mais il n'y a pas forcément conscience que ce qui se joue dans le travail scolaire, c'est bien autre chose. Donc à chaque fois qu'on peut, en classe, mais aussi dans l'accompagnement à la scolarité, travailler avec les familles, travailler avec les enfants sur cette question du rapport au savoir, sur cette question que c'est jamais le faire qui compte dans l'apprentissage. Alors, et du coup, si les devoirs ne sont pas finis, est-ce que c'est si important si la notion est comprise ? Ben voilà. Donc voilà ce qui me semble que du coup, quand on cherche à faire un diagnostic partagé, à réfléchir collectivement sur les territoires, c'est bien mobiliser ces regards de la recherche qui nous sorte un petit peu de nos idées toutes faites et de nos jugements parfois un peu trop faciles sur les familles et les enfants dans les quartiers. Deuxième chose que nous a appris ces plusieurs années de séminaire pour moi, c'est la question de comprendre et soutenir les métiers. Et ça, on en aura l'occasion tout à l'heure en regardant les vidéos d'animateurs et d'enseignants qui parlent de leur travail. Les métiers ont leur culture propre, et si on veut organiser leurs rencontres, ça demande d'expliciter ces cultures professionnelles. Ça demande d'expliciter aussi les rapports de pouvoir et de domination qu'il peut y avoir entre différents métiers. Je dis souvent qu'en fait l'école est déjà un lieu partenarial, au sens où il y a déjà des métiers qui appartiennent à différentes institutions qui travaillent ensemble, ne serait-ce que dans une classe de maternelle. Est-ce que ce rapport entre l'ATSEM et l'enseignant, c'est pas aussi, par exemple, quelque chose à remettre en chantier? Voilà. Et enfin, dernier point qui me semble assez important, c'est comment on arrive à piloter tout ça. Comment les différents responsables, qu'ils soient responsables d'un service de collectivité, qu'ils soient responsables d'un dispositif de réussite éducative, qu'ils soient inspecteurs de l'éducation nationale, qu'ils soient à un moment donné, arrivent à se mettre autour de la table et à partager le problème des élèves, mais aussi les problèmes que rencontrent les différents métiers dont ils ont la charge de diriger, pour essayer de construire, pour moi, ce qu'on pourrait appeler de la formation, mais aussi de l'accompagnement. Et je pense que quand on parle d'accompagnement à la scolarité, du coup, on a trois dimensions à travailler. On a effectivement accompagné les enfants, mais on a aussi l'accompagnement des parents et l'accompagnement des professionnels qui sont directement en contact avec eux. Et là, c'est pareil, on y reviendra aussi avec l'étude qui nous sera présentée tout à l'heure. Il n'est pas dit que tous nos dispositifs partenariaux qui sont pensés et travaillés par les métiers intermédiaires aient un réel impact sur les professionnels qui sont directement en contact avec les publics, qu'ils soient animateurs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient bibliothécaires à la médiathèque municipale, enfin voilà. Et ça, je pense que c'est un sacré problème. Je ne vais pas aller plus longuement parce que tous les éléments dont je vous parle, vous retrouverez vraiment des éléments beaucoup plus approfondis à la fois dans les rapports de séminaires et puis dans les textes de chercheurs que vous avez à votre disposition. Mais voilà, je pense que toutes ces dimensions-là, elles sont vraiment à remettre en chantier sur les territoires si on veut vraiment penser la réduction des inégalités éducatives dans les territoires prioritaires. Et non pas en attribuant forcément la production de ces inégalités éducatives aux caractéristiques ou aux conditions socio-économiques des familles, mais aussi aux inégalités que produisent le fonctionnement ordinaire et le travail des institutions.